et vous écoutez France Culture. Un seul mot désormais résonne, le pire est arrivé. Sébastien Meyer, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Une Bloody Mama flingueuse et teigneuse, une escouade de flics au psychisme non paramétrable, des fascistes infiltrés, quelques drag queens hautes en paillettes à l'affiche ce soir de Mauvais Genre qui reçoit Sébastien Meyer et Benoît Philippon pour leurs deux derniers romans Casseurs d'os au fleuve noir et Mamie Luguerre dans la collection Equinox des arènes. Alors entrez dans le cercle noir et bienvenue à Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour la 6e édition du Cercle Noir, l'édition polar de Mauvais Genre. Je serai en compagnie, ça c'est un bruit signé Hubert Prolongeau, que nous allons retrouver dans quelques minutes. Je serai en compagnie ce soir de Sébastien Meyer.
Bonsoir.
Bonsoir, qu'on avait vu à Mauvais Genre il y a 2 ans maintenant, c'était à Lyon au festival, oui. Quai du Polar. Vous étiez avec nous pour une table ronde sur le polar suisse. Existe-t-il ce genre de table ronde spéciale qu'on a que dans les festivals, on pose des questions improbable. Et vous êtes avec nous ce soir donc pour les casseurs d'os. Donc c'est aux éditions Fleuve dans la collection Noire, puisque cette digne maison a changé de nom depuis quelques années. Je suis également avec Benoît Philippon. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec vous, on commence à découvrir les parutions de Equinox et Arènes, la collection donc de notre ami Aurélien Masson, qui était venu nous en parler il y a quelques mois. Absolument. Et là, vous êtes le premier auteur que l'on reçoit et qui se bat sous l'étendard d'Equinox. Je serai bien sûr avec Élise Lépine. Comment va-t-elle ?
Elle va très bien. Bonsoir.
Et elle a une belle actualité, bien sûr.
Alors, je me suis essayé à la coédition, à l'édition. J'ai travaillé avec Benjamin Fogel sur le livre de Marc Moquin, Tony et Ridley Scott, Frères d'armes, aux éditions Playlist Society. Donc c'est un nouvel opus de ces éditions Playlist Society qui existe depuis 3 ans, qui publie des livres sur le cinéma. Et là, Marc Moquin a travaillé donc sur ces deux frères que tout semble opposé quand on regarde leur filmographie, hein, quand on regarde Le Flic de Beverly Hills 2 ou Le Métro 123 et Alien ou Blade Runner, on a l'impression que finalement ils n'ont pas grand chose en commun, mais Marc Moquin est arrivé à tracer des ponts entre leurs œuvres et entre leurs obsessions, et c'est très intéressant, c'est un beau panorama du cinéma américain de cette fin de 20e siècle et début du 21e siècle. Voilà.
Merci Élise, nous notons donc cette sortie. Hubert Prolongeau, maintenant on va l'entendre.
Oui, hein,
comment va-t-il ?
Il va bien.
Quoi de neuf ?
Mais moi, mon actualité, elle est à venir, ce qui est tout un destin. Elle sera géorgienne. Je pars bientôt en Svaneti, en Toucheti.
En Svaneti.
Deux régions dont moi-même j'ignorais l'existence.
Sébastien Meyer qui crée des duchés imaginaires, des royautés chimériques. En Toucheti.
Ils rejoignent la Sildavie et la Bordurie.
Alors, c'est où ça, la Toucheti ?
L'une est à l'ouest et l'autre est à l'est de la Géorgie.
Ce sont des régions autonomes ?
Ex-soviétiques, pas. Non. Ce sont des simples provinces de ce beau pays.
Et qu'est-ce qui vous amène en Toucheti ?
Eh bien, l'obligation de gagner ma vie et d'arpenter comme ça courageusement les régions les plus obscures du globe pour en ramener
ça
des tonnes
plaisir. Des tonnes d'informations. Si les touchettes vous écoutent.
Les touches. En fait, j'ai tourné les touches 4 là-bas.
Très bien, bah écoutez, à nous raconter donc sur votre prochaine randonnée en Toucheti. Et maintenant, eh bien, ouvrons solennellement, comme de bien entendu, l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Céline, dites-nous tout. Quelle lettre ce soir ?
La lettre de ce soir, c'est la lettre R comme Robillard, André Robillard.
Moi, je suis né le 27 octobre 1931. J'ai 86 ans, j'en vais avoir 87 le 27 octobre 2018. Ben, moi, ça va, la santé va pas trop mal. Je me porte bien. Ben, j'ai dit, on a été jeune, on rentre l'âge, ben, je me dis, c'est la vie. Ça a toujours été comme ça, ça va commencer à me changer. Et puis, il y en a des personnes qui sont encore plus avec moi.
Voilà, mais ils font pas des fusils.
Ils font pas de fusils. Et comme on dit, chaque artiste a sa technique. Hein. Ça, on n'y peut rien là-dessus. C'est lui qui l'a construit par les mêmes. On ne pourrait pas se mettre à la place d'un artiste qui a construit par les mêmes. Ça, c'est compliqué. Hein. Ah oui, c'est pas du facile. puis dans le temps, comment j'aurais pu deviner que j'aurais pu être artiste? Je ne le savais pas, je ne pouvais pas le dire bien avant. J'aurais pu devenir autre chose, sans que ça soit de... C'est maintenant, j'aurais pu être différent. C'est marrant, là, le destin de la vie, quoi.
J'ai rencontré André Robillard en Bourgogne, à la Fabuloserie, musée d'art brut et d'art hors normes, créé dans les années 1970 par Alain Bourbonnais. André Robillard était en résidence pour une semaine afin d'exposer son travail. Il est venu avec ses quatre cages à oiseaux, colombes, canaries, perruches et mandarins, sans lesquels il ne se déplace jamais. Et je le retrouve dans l'atelier en train de fabriquer ses fusils. André Robillard est le fils d'un garde forestier de la forêt d'Orléans. Il a été mis tout enfant à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais. Et c'est en 1964 qu'il a l'idée de fabriquer son premier fusil avec des objets de récupération. Depuis, il ne cessera plus. Les fusils d'André Robillard ont été exposés un peu partout, au musée d'art brut de Lausanne, au LAM de Villeneuve-d'Ascq, à la Halle Saint-Pierre, pour ne citer que ces quelques lieux. Et c'est son psychiatre, Paul Renard, qui à l'époque a pensé à en parler à l'artiste Jean Dubuffet lorsqu'il constituait sa collection d'art brut. Il y a deux ans, par exemple, le musée suisse Kunstmuseum a organisé une grande rétrospective de l'œuvre d'André Robillard, mêlant fusils, dessins et sculptures, révélant son insatiable curiosité, sa passion pour les animaux, mais aussi les planètes, l'espace, la vie extraterrestre, les machines. Mais pour l'heure, retournons à la Fabuloserie où André Robillard est devant sa table de travail, sous ses yeux, objets de récupération, feutre, crayon de couleur et son harmonica. L'artiste prépare un nouveau fusil.
Et eh bien là, je suis en train de dessiner, là. Dessiner, vous voyez, regardez. J'ai fait un dinosaure de 500 millions d'années, oui, il est même construit avec un feutre. Un dinosaure, vous voyez, de 500 millions d'années que j'ai construit. C'est loin, bien sûr. Et puis après il y a eu un animal qui est différent. Ça, c'est un serpent, vous voyez, que de là jusqu'à la longueur qui va là-bas. C'est le serpent indien. Le serpent indien, vous voyez. Et puis, le serpent indien, des animaux différents. Oui, que j'ai pris ce matin, vous voyez, regardez.
Pourquoi un dinosaure et pourquoi un serpent indien?
Ben, c'est pourquoi, évidemment, parce que j'ai entendu parler des dinosaures de 500 millions d'années, bien avant nous, bien sûr. Ça existait, bien sûr. Et c'est là que j'ai entendu ça. Évidemment, à ce moment-là, il n'y avait personne, bien entendu. J'avais entendu parler, ça existait, c'était des générations, mais très loin, très loin. Des générations des préhistoriques, quoi. Puis c'est ça que ça m'a donné une idée de dessiner un dinosaure, des animaux. D'abord, il y a eu des choses, des générations bien avant nous, bien sûr. Puis on nous a appris ce qu'il y avait avant nous. Puis on parlait des dinosaures, puis on parlait d'autres choses que je connaissais pas, bien sûr. Puis ça m'a donné l'idée un dinosaure, de le dessiner, faire un dessin. Et puis un serpent, d'abord des animaux différents, quoi. Sitôt que j'ai une idée, ça y est, je construis un dinosaure, ben je l'ai fait avant que vous arriviez, vous voyez.
Et vous le dessinez donc en noir?
En noir, oui. Puis après, on peut le colorer après, avec des crayons de couleur, vous voyez, feutre, oui. Je commence toujours par des feutres, vous voyez. Je vais vous montrer. On met d'abord, mettons, le canon, vous voyez, là, le canon au bout. Avant de mettre tous les matériaux après, oui. Alors, ça va être bon. Et puis alors, ce que je fais... attendez voir.
Là, vous avez quoi? Des bouchons de...
Il arrive aussi que... Je vais vous montrer ça.
Une poupée Barbie?
Une poupée Barbie, comme c'est le fusil. C'est marrant, hein? Salut! C'est marrant. Barbie. Et puis, j'ai pas que ça que je mets, bien sûr. Et puis, regardez ce que je mets. Et puis, je mets des bouchons comme ça. Des bouchons que je mets aussi. Je les coupe. Vous voyez, puis je les mets sur les fusils. Et puis, je mets quoi non encore? Et il arrive des fois que je mets des boîtes comme ça. Des boîtes, mais là, ils sont un peu machinés. Mais quand ils sont pas cassés, je les mets dessus.
Des canettes de bière.
En boîte, oui. En boîte. On est heureux de ce qu'on a fait, quand même. Parce que ça a changé la vie. On a des contacts dans la vie. On n'est pas seul.
L'accrochage d'André Robillard, composé de fusils et de dessins, est à voir en ce moment à la Fabuloserie, et ce jusqu'au 1er novembre 2018. Deux films ont été tournés avec et sur l'artiste, celui d'Henri-François Humbert, intitulé André Robillard à coup de fusil et celui de Philippe Lespinasse, André et les Martiens, car sachez-le, André Robillard parle couramment martien. C'est en tout cas une occasion rêvée pour vous rendre à la Fabuloserie, un lieu vraiment unique dont je vous reparlerai à la rentrée un peu plus amplement. Et en attendant, allez-y, c'est dans le village de Dissy, dans l'Yonne. Plus d'informations, www.lafabuloserie.com.
Merci Céline pour cette entrée R comme Robillard de notre encyclopédie pratique des mauvais genres. Benoît Philippon, réaction à ce, vous qui êtes l'homme des mamies Luger, vous avez un papy fusil.
Ah bah, il est magique, moi je le prendrais bien dans un de mes romans.
Oh bah, je pense qu'il serait tout à fait partant.
Ouais, même son vocabulaire, son élocution, j'ai l'impression de le connaître et d'avoir déjà un peu pratiqué. Mais en tout cas, ouais, je vous l'emprunte sur le prochain.
Très bien. Sébastien Meyer, alors ?
Très bohémien. Est très très bohémien.
Très bohémien, on se sent. On va apprendre le sens que vous donnez à ce.
Oui.
Très bohémien, c'est-à-dire un peu.
Ah, il colle parfait, oui. Pas très marginal, très libre, très poétique. Voilà, il va très bien, il irait bien au Raffio, je pense qu'il s'entendrait très bien,
oui,
avec Jim.
Absolument.
Et très philosophe, j'ajouterais. Par rapport au destin de la vie, comme il dit.
Quelques minutes et nous sommes tous devenus robillardiens, n'est-ce pas, Hubert? Voilà, et puis...
Robillardolâtre,
Robillardolâtre, Élise Lépine, oui, également.
Moi, je veux un de ces fusils, hein, pour me défendre de toute la dureté de la vie.
En ces périodes de MeToo, c'est une nécessité.
C'est pas de la passion.
Les fusils ont été créés pour tuer la misère. Voilà le
pour
point de vue.
Pour tuer la misère. Ouais, ouais. Cet homme est un saint. Oui, vive André Robillard.
Mais ses armes assez peu efficaces, quand même.
Mot. Merci Céline. Et maintenant, on va quitter André Robillard, mais pour retrouver les bohémiens et pour retrouver Mamie Luger.
Don't tell a soul, but it's a time when we've got to understand. You've seen it written on me. This time it could last. There's no on a floor for me to just fall about with you. Don't tell us all our secrets. Christmas was for you, and I'll make it last. I thought about sometimes like this when I'm looking at my hat. You bought it last December. It's better than that. Maybe we considered live while.
The Pale Fountain, une playlist donc comme tous les samedis, signée Laurent Polleret sur Mauvais Genre. On va commencer avec vous, Sébastien Meyer. On vous avait reconnu auteur chez Zoé d'une trilogie parue dans les années 2014, 2016, 2017 à peu
près. C'est ça. Oui.
Et on vous retrouve là aujourd'hui au Fleuve Noir avec ses Casseurs d'os, mis sous l'invocation du Gypaète Barbu qui est en couverture. Mm-hmm. Comment peut-on définir Élise Lépine, Sébastien Meyer?
Oula, alors on là, je trouve ça très compliqué.
Est-ce qu'on peut le définir
qui que ce soit, et surtout pas Sébastien Meyer. Est-ce que vous vous définissez d'une quelconque façon?
Ah non, surtout pas. Non, je ne me définis pas.
Alors, ce qui est frappant dans ces Casseurs d'os, c'est que vous avez, je dirais, pratiqué ce qui est d'habitude un attribut des auteurs de fantasy ou des auteurs de fantastique, c'est-à-dire que vous avez créé un monde imaginaire, un univers dystopique, utopique, qui ressemble quand même ardemment à certains petits états de l'Europe d'aujourd'hui, la Suisse notamment, et la Belgique, qui s'appelle la Bohème, et vous avez constitué une carte. Alors, oui. Comment en êtes-vous venu à ce moment, je dirais, cartographique? Est-ce que c'est la carte qui a ensuite révélé l'histoire? Ou est-ce que vous avez eu, pour les nécessités de l'histoire, qui est assez complexe, qui est très localisée, avec des villes, des lieux naturels, est-ce que vous avez conçu la carte en second?
Non, la carte est arrivée assez tôt, en fait. Le pays est en fait arrivé très très tôt, parce que comme vous l'avez dit, il y a eu une première trilogie qui se passait en Suisse, avec des flics suisses, avec une procureure suisse, avec une réalité suisse, et à la fin de cette trilogie, j'ai eu envie de m'évader un tout petit peu, et je me suis dit pourquoi pas créer un pays. J'ai donc inventé la Bohème, qui se situe quelque part au sud des Alpes, nord de l'Italie, on sait pas trop, c'est un peu proche de la Slovénie. Et Quitte à créer un pays, j'avais envie d'en faire un pays dans lequel j'aurais moi-même envie de vivre, donc un pays extrêmement progressiste, qui aurait eu un autre parcours politique que les autres pays européens, mais qui néanmoins n'est pas une complète utopie, c'est-à-dire qu'il s'ancre dans l'histoire européenne de manière très très concrète. Il a été reconnu comme État indépendant au Congrès de Vienne en 1815, il a traversé la Seconde Guerre mondiale.
Oh, Sainte Alliance.
Oui. Et du coup, voilà, il y avait cette bohème, et comme moi je travaille beaucoup de manière visuelle, je dessine tous mes personnages, et donc comme la bohème est un personnage de ce roman, j'ai dessiné la bohème très rapidement, avec son lac, ses montagnes, ses villes, ses routes, ses plaines agricoles, et donc la carte est arrivée en fait avant l'enquête, avant l'histoire.
Et cette paille imaginaire qui vous a permis de dire sur la Suisse ce que vous n'auriez pas pu en dire, en gardant la véritable identité, la véritable morphologie du pays.
Si, en Suisse, on peut tout dire.
On peut tout dire.
C'est pour ça qu'on ne dit rien.
voilà.
Non, j'aurais pu dire tout ce que j'avais à dire sur la Suisse, mais je crois justement avoir déjà dit tout ce que j'avais à dire sur la Suisse dans cette première trilogie. Donc, peut-être c'est plus une question de personnages. Les personnages qui sont dans cette trilogie n'auraient peut-être pas pu exister dans une autre réalité, disons helvétique ou française ou italienne, etc. Puisque ce pays étant extrêmement progressiste, ça a des impacts, non pas seulement matériels, mais aussi existentiels sur les personnages qui, du coup, jouissent d'une liberté très très large. Il y a un revenu de base, il n'y a pas de propriété privée, il n'y a pas de société anonyme, il n'y a que des coopératives, il y a des communautés autonomes un peu partout, c'est à la fois une monarchie et une confédération. Enfin, c'est un espèce de melting pot comme ça, un peu hétéroclite, mais qui fonctionne néanmoins. Et ce qui m'a intéressé avec ces personnages, c'est non pas seulement de calquer, disons, les précédents personnages que j'avais dans ma trilogie helvétique, puis les mettre dans une autre réalité, mais c'était vraiment de me questionner sur, voilà, quand on n'a plus la pression du loyer, quand on n'a plus la pression d'un revenu de subsistance, qu'est-ce qu'on fait de cette liberté-là? Et comme c'est un pays qui a cette tradition depuis très longtemps, et ben c'est des gens qui peuvent aller très loin dans cette liberté, et c'est ça qui m'intéressait.
Élisépine.
Oui, moi j'ai aimé, je crois qu'à un moment donné dans le livre, vous écrivez un pays anarcho-socialiste avec cette reine en même temps qui est un personnage aussi qu'on croise à plusieurs reprises dans le livre et qui est très intéressante, qui est assez rock quand même, et en même temps qui a ce poids de la tradition sur ses épaules. J'ai trouvé que c'était vraiment un système qui tient debout et qui est très cohérent dans le roman, et en même temps qui reprend beaucoup d'éléments. J'ai trouvé très intéressant aussi que vous leur donniez ce revenu universel. Vous prenez de véritables éléments d'actualité et vous les mettez dans un système qui est ancien.
Oui, et j'ai fait ça en fait pour toute l'histoire de ce pays. Par exemple, la propriété privée a été abolie à la fin du 19e siècle, à peu près pile poil au moment où Proudhon disait que la propriété était le vol. Je n'ai rien inventé. J'ai simplement repris, parce que je pars du principe que les sociétés dans lesquelles nous vivons actuellement ne sont que le résultat de choix. À un moment donné, il y a des types qui se sont réunis autour d'une table, ils ont dit « bon, on va écrire une constitution, ça va ressembler à ça, ça va être fun ». Et ça, c'était motivé par tout un ensemble de valeurs, en général libérales et conservatrices. Et en Bohème, simplement, c'était la même table avec les mêmes personnes, c'était un peu moins des types, il y avait aussi des femmes, parce que c'était un pays antisexiste. Et du coup, ces femmes, elles ont dit « bon, bah, nous, on va aller dans l'autre sens, on va faire autrement ». Quand on dit « pas de propriété privée, ce serait cool », elles l'ont fait. Voilà, ça a été fait. Et c'est pour ça que ce pays a cette... moi, je le considère un petit peu... Enfin, je le considère comme très réaliste. Pour moi, c'est juste un pays que j'appelle de mes voeux, qui est utopique dans le sens où il n'existe pas, mais qui, dans sa trame, dans sa construction politique, est tout à fait plausible.
Hubert Prolongeau.
Oui, c'est un roman qui dénonce quand même beaucoup de choses, et qui même le fait sans les lourdeurs d'une tradition bien pensante, gauchisante, à la Dominique Manotti ou autre. Est-ce que vous considérez...
Ne parlez pas comme ça des auteurs d'Equinox, monsieur.
Est-ce que, oui, c'est vrai, j'avais oublié que c'était que vous étiez camarade de maison. Est-ce que c'est un livre politique pour vous, Les Casseurs d'Os? Et est-ce que plus on s'éloigne du réalisme, plus on a la latitude d'écrire des choses politiques?
C'est vrai que moi, je voulais effectivement éviter tout ce côté moralisateur que peuvent prendre parfois certains écrits de gauche. Et puis moi, j'écris du polar, je ne fais pas des thèses, je ne fais pas un mémoire de géopolitique mondiale. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, effectivement, j'ai envie de pouvoir ancrer mon roman dans une pensée. J'ai envie de pouvoir faire part de certaines convictions qui sont les miennes. Mais le côté dénonciateur, la confrontation, voilà, je vais aller voir tout ce qui va mal dans le monde dans lequel nous vivons, déjà je l'ai déjà fait dans la précédente trilogie, il me semble que voilà, j'ai un peu tourné là-dedans, et beaucoup de gens le font, et le font très très bien. Moi, ça m'a un peu fatigué, ça me déprime aussi d'un point de vue personnel, d'aller farfouiller dans les histoires sombres, et là j'avais envie de quelque chose d'un peu plus lumineux, peut-être plus dans une proposition, de dire le côté politique de ce roman, parce qu'après il y a tout le côté polar, l'enquête, les personnages, tout ça, ça c'est autre chose, mais la base de ce roman, le contexte, je voulais que ce soit un contexte engagé, mais je voulais que ce soit fun. Enfin, j'avais pas envie justement d'être continuellement dans la dénonciation.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous partez donc d'un matériau totalement imaginaire, d'une sorte de lieu utopique, chimérique, une monarchie chimérique, comme certains ancrés dont ils se font les empereurs, avec même des papiers à lettres et des timbres. Et à partir de cela, vous créez une intrigue qui, elle, n'a rien de chimérique. Non. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une sorte de Monténégro de fantaisie, ou de pays, ou de monarchie balkanique, un petit peu amusante, comme on en avait dans l'opérette de la Belle Époque. C'est pas du tout ça, puisque l'histoire raconte quand même la tentative de prise en main justement de cette utopie politique et économique par les multinationales, par des groupes fascistes. Il y a donc en même temps la création d'un monde où tout est fait pour aller bien, ouais. Et puis la menace qui fait plus que rôder, qui fait plus que planer comme le JPAET, mais qui s'infiltre, qui utilise tous les canaux possibles pour pourrir et pour contrôler un peu. Donc il y a quand même au cœur de tout cela une intrigue très contemporaine.
Absolument, mais pour moi la Bohème existe, pour moi la Bohème est extrêmement réelle. Ce pays existe, ce pays est contemporain, ce pays est en Europe et ses frontières ne sont pas imperméables. C'est pas un pays qui est en marge, c'est juste un pays qui a fait autrement. Et du coup il est traversé par les mêmes crises que l'Europe connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un ultralibéralisme qui est en train de saper les fondements de tout état social, qui est en train de dilapider tous les pauvres acquis sociaux que les travailleurs et travailleuses ont réussi à gagner en 60 ans de combat, et en même temps un retour des fascismes qui est évidemment corrélé à cette méthode économique. Donc la Bohème traverse ces mêmes crises, ces mêmes combats, simplement comme elle a d'autres bases politiques, ça se passe un petit peu d'une manière différente. Et les deux meurtres sont liés à ce contexte de crise qui est pareil en Bohème qu'en Europe, finalement.
Des meurtres particulièrement sauvages, d'ailleurs.
Oui.
Il y a un acharnement qui est assez, je veux pas dire qui est étonnant, puisque tout est possible, mais qui est quand même marqué par son archaïsme, presque.
Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, effectivement. C'est une historienne qui se fait assassiner la première. Son assistant y passe peu après. Et donc, elle est retrouvée dans une vallée alpine, le visage totalement détruit. Et les personnes qui ont fait ça sont effectivement des personnes que je considère moi-même comme étant archaïques. Après, à savoir qui sont, je vous laisserai lire.
Oui, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est la question du visage, parce que les visages ont une grande part dans ce roman, qu'on les farde. Oui. Qu'on les maquille, qu'on en jouisse ou qu'on les détruise. Mm-hmm. Tout part, il y a cette espèce de facialité, si j'ose, qui est propre aux monarchies d'ailleurs. Ça, c'est qu'on met le visage du roi sur la monnaie, on le met sur le billet de banque. Enfin, il y a quelque chose de puissant dans ce récit.
Ah ben, j'avais pas du tout pensé à ça. Je vais y réfléchir mieux, je vais me relire. Quelle drôle d'idée. Non, j'avais pas pensé à ça. J'avais plus pensé. En fait, non, j'avais pas du tout pensé au visage. Voilà, vous venez de soulever un truc qui est de l'ordre de mon inconscient d'auteur. Ben, bravo.
Continuez à soulever.
Je vais faire analyser.
Il y a ce lien aussi dont on va parler avec Benoît Philippon d'ailleurs, qui réunit un peu les deux romans, mais du féminisme et de la question du sexisme, cette haine archaïque qui est à l'œuvre dans la façon dont est tuée cette femme qui est violée et qui est salie et détruite de toute façon possible par ses agresseurs, qui auraient pu d'ailleurs se contenter de lui tirer une balle dans la tête. Hein. Elle dit quelque chose aussi sur la violence masculine et la volonté de détruire la femme. Il y a aussi une réflexion sur le sexisme, sur l'homophobie dans le texte. Mm-hmm. Il y a ce très beau personnage que j'ai beaucoup aimé d'Elias Neumann, qui est à la fois un journaliste lanceur d'alerte et qui est aussi se transforme et adopte une autre identité, un autre sexe. Donc c'est très intéressant cette réflexion sur le sexisme, et on sent que vraiment ce monde est divisé entre des penseurs archaïques qui sont pour un ordre moral qui n'a plus lieu d'être et des symboles d'émancipation et de liberté.
Oui, en quoi ce roman est vraiment très actuel à ce niveau-là. C'est évidemment traversé de tous les questionnements qui sont les miens et de toutes les discussions que je peux avoir avec mon entourage aujourd'hui, et cette crainte que l'on a de voir ressurgir cet archaïsme bourré de haine de l'autre dans tous les sens. Et ce mouvement-là, il a cours en Europe. Enfin, personnellement, j'ai le sentiment qu'il y a une régression assez terrifiante, notamment par rapport aux droits LGBTIQ, par rapport au féminisme. Le combat féministe se doit de se radicaliser aujourd'hui, mais ce qu'on voit avec... tout le monde dit « Ah oui, c'est super, il y a eu un MeToo, trop bien, waouh !» Et effectivement, c'est très bien que cette prise de parole ait lieu, mais quand on voit les réactions qui sont en face, franchement, moi j'ai peur. Il y a tout d'un coup, ce qui a été révélé n'était pas seulement la parole des victimes, mais ça a aussi été la surdité, l'aveuglement, l'incapacité de se remettre en question de toute une catégorie d'hommes qui, bien accrochés, et de femmes aussi souvent, qui, bien accrochés à leurs privilèges, n'ont pas du tout l'intention de se laisser compter. Et voilà. Et ce conflit-là, quelque part, il traverse tout le roman. Il est incarné par les personnages. Voilà, il y a Elias, qui, la nuit, dans ce cabaret, se transforme en la garçonne, chante de David Bowie. Et parce qu'il a lancé cette alerte, parce qu'il a simplement fait émerger ce qui sourdait depuis longtemps, hein, le fascisme n'avait pas disparu, ça c'était une illusion, évidemment, eh bien il reçoit la première lettre en 5 ans qui lui dit « crève, sale pédé ». Voilà. Et ce retour-là, peut-être que ça n'avait pas disparu en termes de réel, mais en termes de visibilité, il y avait quand même eu une accalmie, eh bien ce retour-là est terrifiant, et forcément je l'ai mis dans le livre.
La cime des arbres disparaît dans la brume, il n'y a que le blanc de la neige et le noir des troncs. Univers en bichromie. Elle s'avance en direction d'un attroupement de corbeaux. Les oiseaux croassent, comme pour l'avertir. Sont-ils si bavards ou est-ce l'écho? La neige craque sous ses pieds, ses poumons relâchent à chaque expiration un épais nuage de buée. Encore un pas, les corbeaux s'envolent. Elle lève la tête et aperçoit un oiseau gigantesque au faîte d'un conifère. Majestueux et serein, il la guette de son œil rouge. Plumage rouille et noir, barbichette sous le bec, le casseur d'os, le nettoyeur des alpages. Dans la vallée du Chipi et du Teufeltal, l'animal évoque les pires horreurs et pourtant on lui voue un culte depuis des lustres. On le disait disparu des Alpes, mais le gypaète barbu semble lui aussi de retour en Bohême. Extrait des Casseurs d'os de Sébastien Meyer, qui en livre d'ailleurs les raisons du titre, Hubert Prolongeau.
Oui, moi je voulais savoir, justement, vous évoquiez votre héros, et est-ce que pour vous l'androgynie, l'ambiguïté le sont un moyen de résoudre ces conflits intersexes que vous décrivez?
Ah non, j'ai jamais pensé ça comme ça. Non, je pense que c'est peut-être très simplement l'identité de certaines personnes. D'être non-binaire, de s'enfermer dans aucun genre, dans aucune orientation. Et mon personnage principal se revendique comme ça, se ressent comme ça, et j'avais envie d'assumer ça.
Et pour vous, en tant qu'écrivain, alors cette notion de genre, elle est où? Parce que vous écrivez un roman qui est un polar, qui peut aussi être une dystopie, qui se situe dans l'imaginaire. Est-ce que vous revendiquez cette capacité à mêler comme ça divers genres sans vous tenir à quelque chose de particulier?
En termes d'écriture, moi je ne revendique absolument rien. Je me contente d'écrire et après je laisse aux autres le soin de me classer là où ils estiment que je dois aller.
Voilà. Lise Lépine.
Oui, ça rejoint d'ailleurs un élément intéressant dans le roman. Moi, j'ai aimé que dans leur loi ou leurs usages, on dise « ils » quand
Yel,
on parle.
Ouais. On ne dit pas « ils », on dit « yels ». « Yels », comme le miel
quand
ou le fiel.
Quand on a un homme et une femme et qu'on parle d'un groupe contenant un homme et une femme, je trouve ça, ou plusieurs hommes et plusieurs femmes. Donc là, vous avez rajouté la question de, en gros, l'écriture inclusive, ou en tout cas ce questionnement-là autour de l'orthographe, qui a d'ailleurs défrayé la chronique récemment. Et, vous nous évoquez, vous nous inventez une société comme ça où on a le « yel », et j'ai trouvé ça aussi très... finalement porteur de sens dans le livre.
Ah bah c'était un souci de cohérence. Bon, déjà aussi parce que je pense que le français étant sexiste, il est temps d'en changer, ou en tout cas d'accompagner cette évolution en ayant le courage de tenter l'expérience, puis de se dire bah pourquoi pas, essayons, voyons, avant de crier au loup au péril mortel de la langue. Pauvre français. Non, bah évidemment, la Bohème étant un pays progressiste, je pouvais pas l'écrire sans inventer un français bohémien. Alors c'est un français non sexiste qui ne respecte pas du tout la règle du masculin l'emporte sur le féminin. Le masculin ne l'emporte pas sur le féminin en Bohème. Il est appliqué du coup la règle de proximité et il est utilisé la forme « yel » pour définir un groupe où se tiennent à la fois des hommes, des femmes et toute personne. Et, mais par contre, c'est peut-être le français d'après, ce qu'on appelle aujourd'hui le français inclusif, dans le sens où il n'y a pas la marque typographique de cette inclusivité. Il n'y a pas de -e-s. Mmh. J'ai trouvé des périphrases, j'ai trouvé le moyen de faire en sorte qu'à part la forme IEL, ce français inclusif soit invisible, indétectable et néanmoins non sexiste. Voilà, comme quoi c'est possible.
Vous aviez aussi une volonté de prouver qu'on peut évoluer sans, sans être dans une rupture totale avec... avec ce qu'on a l'habitude de lire quand même, puisque à la lecture, on n'est pas dérangé par ce YEL qui arrive assez souvent dans le texte.
Non, je crois pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont été surpris par ce YEL. Après, il y a des positions de principe, des gens qui ont une haine viscérale par rapport à toute modification de la langue à ce niveau-là, ce que je trouve très très particulier, très bizarre. Je pense que ça dit plus ça des gens que de l'écriture elle-même. Et voilà, non, moi j'y tenais beaucoup, je crois à ça. Je crois que la langue doit pouvoir évoluer et si des personnes se sentent exclues, comme c'est le cas, la langue française exclut 51% de la population. Enfin, à un moment, il faut arrêter de déconner, c'est comme ça que ça marche. On doit pouvoir faire évoluer une langue. Je vois pas en quoi on devrait être prisonnier d'un français typé, en quoi on devrait rester coincé là-dedans et pourquoi on devrait pas, on pourrait pas expérimenter des choses par rapport à la langue.
Benoît Philippon, qu'en pense-t-il ?
Alors moi, je suis complètement pour. Je suis complètement... Après, moi, dans mon écriture, je vais pas travailler sur cet aspect-là précisément, mais je suis d'accord pour que la langue, c'est organique, c'est vivant. Enfin, surtout, l'être humain est organique et vivant. Donc, on évolue et il faut que le reste évolue avec nous. Parce que si ça reste figé, on va pas aller très loin.
Oui. Une fois n'est pas coutume, je vais citer Confucius, qui disait, je crois, que changer l'ordre des mots, c'est toucher à l'ordre du monde. Vous pensez qu'on peut modifier la société en changeant les usages linguistiques, ou est-ce qu'il faut d'abord que, ou au contraire, c'est la société qui fait remonter les usages linguistiques?
Alors, c'est à mon sens, bon, moi, j'ai pas de réponse, hein. J'imagine que c'est la question de l'œuf ou de la poule. Mais si, historiquement, on regarde un petit peu l'évolution de la langue française, au moment où les hommes ont eu envie d'écarter les femmes du pouvoir, la première chose qu'ils ont fait, c'est rendre le français sexiste. Je renvoie au livre d'Eliane Viennot qui dit non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin et qui historiquement date cette évolution de la langue française. À partir de quel moment des hommes au pouvoir ont décidé d'écarter les femmes de tous les postes d'influence? Et voilà, ça a été la naissance de l'Académie française et la modification de la langue dans une direction sexiste.
Hubert Prolongeau.
Oui, non, mais c'est assez... incontestable. Et l'intérêt de ces modifications-là, c'est qu'elles apportent quelque chose. C'est pas un envahissement par un anglais, puisque qui remplacerait le français sans rien apporter de plus, comme on le voit sur les affiches de cinéma très régulièrement. Pourquoi appeler un film espagnol tourné par un Iranien dont le titre original est espagnol, Everybody Knows en français. Donc ces absurdités sont des pertes pour la langue, mais effectivement, parce qu'elles ne disent rien d'autre sinon constater une espèce de conquête d'envahissement culturel. Mais là, oui, là, c'est au contraire l'affirmation de l'évolution d'une règle qui prend en compte des éléments de changement de la société. Et je pense qu'il y a une interaction, que l'un est possible et audible parce que on sait que l'autre est là, que les choses ne peuvent pas naître comme ça, sui generis, mais qu'elles s'accompagnent.
Et Casseur d'os de Sébastien Meyer, c'est au fleuve noir.
Mauvais genre, François Angelier.
Deuxième invité de ce soir dans Mauvais Genre, Benoît Philippon pour Mamie Luguerre, donc paru aux arènes dans la collection Equinox. Bien prolongé.
Oui, Benoît Philippon qui a démarré en polar récemment avec un livre qui s'appelait Cabossé, qui est un livre dont les rôles étaient pas mal, qui tabassait pas mal aussi, comme Mamie Luguerre. Avant, vous êtes né en Afrique, vous avez grandi en Côte d'Ivoire. Et effectivement. Mais après aux Antilles. Et vous avez été scénariste, réalisateur, donc vous avez déjà un sens du récit et de l'image qui se sent dans Mamie Luguerre, en allemand. Et voilà, qui est un roman, enfin on va en parler, assez étonnant, et qui dépasse, je trouve, une couverture qui pourrait être, donc on y voit une vieille dame avec une carabine. La bande-annonce qui est à côté dit centenaire, féministe, serial killeuse. On pouvait se dire, voilà, on va avoir Carmen Crue avec un flingue. Et en fait, c'est un livre qui va plus loin parce qu'il y a un mélange de récits, un mélange de narration et un jeu sur la langue qui est assez intéressant.
Oui, c'est sûr.
Benoît Philippon.
Les histoires de couverture ou de tagline, effectivement, comme cette bande bleue qui essaye de résumer en trois mots, c'est toujours un peu difficile parce que
très belle couverture de Alain Blaise.
Ah, pas du tout. C'est Stéphane Trappier qui a fait
Stéphane Trappier, pardon pour moi.
Qui a fait l'illustration.
Oui. En plus,
Alain Blaise doit être le graphiste qui a dû faire le reste. Non, c'est toujours compliqué. Alors, en plus, moi, venant du cinéma, donc de l'image, quand on commence à parler d'image sur un texte, alors que le texte n'a pas lui-même d'image, ça devient un spectre interprétatif extrêmement large. Et puis, c'est vrai que c'est difficile de résumer en une image, qu'elle soit très illustrative comme celle-là ou abstraite, tout ce que dit un roman de, en l'occurrence, 450 pages. Donc c'était pas évident. Pour moi, c'était en tout cas l'envie de cette couverture, c'était plus de dire... Ok, ça va être le combat d'une femme qui est effectivement armée d'une carabine et qui utilise un peu la méthode dure pour s'exprimer. Mais je voulais que soit véhiculée quand même cette idée de légèreté. Alors c'est un vrai roman noir. Il y a beaucoup de noirceur et je traite les sujets dont on parle avec sérieux, avec beaucoup d'âme et beaucoup de dureté, mais je voulais aussi le contrebalancer par la légèreté de la grand-mère à 102 ans, parce que Berthe a plusieurs âges dans le roman, puisque ça se passe sur deux chronologies.
Exactement, on va en parler là.
Donc c'était cet appel de cette légèreté, le paradoxe entre la carabine et le sourire de la grand-mère, c'était dire voilà, on va passer par les deux couleurs.
Alors, ce qui est important à Benoît Philippon dans cette Mamie Luguerre, c'est d'abord la structure du roman et la construction qui est assez complexe et qui nous permet une sorte de grand travelling assez long et assez romanesque, plus que romanesque, sur un siècle d'histoire de France, puisque la police est invitée, et plus qu'invitée à intervenir suite à la fusillade que génère Mamie Luguerre. Elle-même est appréhendée, entretien, discussion avec le commissaire Ventura, et là, à partir de là, elle va raconter sa vie. Et c'est quasi un siècle d'histoire de France qui va défiler sous nos yeux depuis 1914. Alors on va voir ce qui ponctue ce défilé, quelles sont les étapes. Mais il y a quand même, dès le départ chez vous, la volonté de mettre en place une structure qui est à la fois presque feuilletonesque, au sens où le personnage apparaît avec des volets précis qui sont liés à des personnages. Et en même temps, tout ça est fusionné par le recours à un dialogue qui dure 400 pages.
Ouais. Ça, c'est effectivement dû à mon passif et de scénariste, mais aussi beaucoup de réalisateurs. Réalisateur veut dire aussi monteur. Et comme j'ai fait deux longs métrages, j'ai fait le montage en long métrage. C'est plusieurs semaines à retravailler la matière, à utiliser ce qu'on appelle un chutier. C'est toutes les séquences qu'on va rebalader dans une timeline pour injecter soit du suspense, soit de la tension, soit du rire, etc. Et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup quand j'écris. J'avais fait pas mal ça sur Cabossé à l'époque. C'était ma première approche de la littérature où Cabossé, chaque chapitre, j'avais écrit des fichiers Word séparés et j'avais vraiment remonté comme ça au gré. J'ai pas de souci à casser la linéarité tant qu'elle reste, sans perdre le lecteur, mais pour voilà, créer l'attente et le suspense. Et Mamie Luguerre, c'était un peu le même principe. Au début, j'étais parti sur une idée beaucoup plus linéaire, parce que Mamie Luguerre apparaît dans Cabossé, donc raconte déjà une partie de sa vie dans Cabossé. Elle tease ce qu'on va découvrir dans ce roman, c'est-à-dire qu'effectivement il y a du cadavre dans sa cave. Et pourquoi? Et là je me suis dit du coup si on lance le roman Mamie Luguerre, on va raconter de sa naissance à sa mort. C'est assez intéressant, sachant qu'elle a 102 ans. Elle naît en 1914 de fait. Donc comment je raconte l'histoire d'une femme? Puis assez vite j'étais trop linéaire avec des ellipses trop importantes, parce que sur un siècle, à moins de faire un ouvrage en 15 volumes, ça allait pas aller. Et d'où est arrivée l'histoire de la garde à vue. La garde à vue permettait deux choses, d'avoir deux temporalités, la temporalité 24 heures de la garde à vue, la temporalité un siècle de la vie de la grand-mère. Et surtout, la garde à vue, je voulais la prendre à contrepoil de ce qu'est d'habitude une garde à vue, c'est-à-dire qui est le coupable. On sait tout de suite que c'est elle, le coupable. Enfin, assez vite, on sait qu'elle est coupable, en tout cas, d'en avoir désingué quelques-uns.
La question n'est pas de savoir qui a tué, là.
Voilà, donc l'enquête, l'inspecteur, c'est moins pour savoir, je vais vous piéger, vous êtes le coupable, mais pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, c'est moins une garde à vue qu'une psychanalyse. Elle l'appréhende un peu comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle va raconter à chaque meurtre comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi elle estime qu'elle a la caution morale d'avoir commis ce meurtre. Et l'inspecteur, au lieu de juste remplir les cases de...
Il est fasciné, il est amoureux, l'inspecteur.
C'est ça,
il est sous le charme.
Et normalement, on espère que le spectateur suit le même parcours émotionnel que l'inspecteur, qui au début veut juste accuser cette grand-mère qui lui paraît un peu fofolle, sachant qu'au début, elle n'est pas complètement coupable. Et puis au fur et à mesure, elle avoue un premier meurtre. Bon, c'est quand même un nazi qui a essayé de la violer, donc elle a des circonstances atténuantes. Puis au fur et à mesure, c'est le premier mari qui était violent. Et puis voilà, il y a une grande complexité sur cette femme qui est effectivement tueuse en série. Mais alors, effectivement, par rapport à la tagline, tueuse en série, pas parce que c'est rigolo, pas parce qu'on veut faire un film américain où elle tue en série à travers le tarot, l'astrologie, etc. Non, elle est tueuse en série parce qu'à chaque fois, il a fallu se protéger.
Ben voilà.
Il a fallu survivre. Donc, elle n'est pas tueuse en série de fait, elle est tueuse en série parce que si elle ne faisait pas ça, c'était elle qui y passait, quoi.
Alors là, ça n'est pas qui a tué, c'est combien on a tué et pourquoi on a tué. Donc voilà.
Oui.
Et l'histoire de Mamie Luger, donc il y a trois lieux. Il y a la salle d'entretien, enfin, la garde à vue, là où justement elle est interrogée. Il y a chez elle, mais chez elle depuis cette salle. C'est-à-dire que le commissaire Ventura est en contact permanent avec les spécialistes qui sont en train de fouiller la cave de la grand-mère. Et donc les informations arrivent et ça fait rebondir le récit. Ça, j'avoue que c'est d'une efficacité absolument redoutable. Et puis, les autres lieu, c'est évidemment les différents moments de sa vie, Élise Lépine.
Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'effectivement, il y a cet aspect, d'ailleurs comme dans Les Casseurs d'os, un peu conte de fées, quoi. C'est-à-dire que Mamie Luger, c'est un peu le petit chaperon rouge qui finit par désinguer le chasseur, lui ouvrir le ventre. Enfin bon, voilà.
Oui, ça va même plus loin. Pour moi, c'était un peu ça. C'était la grand-mère qui avait bouffé le loup.
C'est la grand-mère qui a bouffé le loup, voilà.
Il
y a tout ce côté tarantinesque, quand même, avec des scènes d'action qui sont rudes et qui nous donnent beaucoup d'action dans le livre. Et puis, il y a en même temps cette approche très profonde de préoccupations féministes et on a non seulement une histoire du siècle du 20e siècle mais on a aussi une histoire des violences faites aux femmes depuis 1914 jusque tard dans le 20e siècle et on voit que finalement la condition des femmes n'a pas évolué plus que ça dans ces années noires de la
verte. C'est très intéressant parce que alors je me retrouve un peu de façon complètement pas calculée dans l'actualité parce qu'effectivement l'affaire Weinstein, le hashtag, etc., qui a explosé il y a un an. Alors, Cabossé, c'était il y a trois ans. J'avais écrit, effectivement, cette grand-mère qui hébergeait de fugitifs parce que Leroy, le personnage principal de Cabossé, avait protégé Guillemette, qui elle-même était déjà victime de violences conjugales, donc il avait protégé en tuant son ex-mari, qui, sous ses belles apparences, en fait, était un tortionnaire. Encore un, je les appelle les ogres. On parle beaucoup de... Enfin, moi, je travaille beaucoup sur la fable, effectivement, parce que j'aime pas être trop ancré dans la réalité, parce que j'ai peur, justement, d'être trop j'ai pas envie d'être donneur de leçons, je préfère travailler sur l'imaginaire, donc sur des symboles et sur le côté soit mythologique soit la fable. Donc effectivement cette grand-mère qui est très grand-mère petit chaperon rouge et donc effectivement le féminisme expliqué déjà dans Cabossé où elle explique qu'elle a tué ses maris a priori que c'était pour des bonnes raisons. Donc le fil conducteur de Mamie Luger quand je l'écris il y a deux ans c'était de dire pourquoi elle les a désingués tous et c'était pas juste de faire un chapelet de à chaque fois elle tire dessus, non c'était de dire bon effectivement si cette femme est née en 1914, elle est née pendant la guerre, son père meurt, elle est élevée par des femmes, c'est quoi une femme dans un monde d'hommes, ce qui est de fait ce qui se passe actuellement. Mais je me suis dit je vais tirer le trait au point de raconter ce que j'ai pu voir dans ma vie en général, mais même aussi à travers les aïeux que j'ai pu fréquenter, dont ma grand-mère, et d'essayer de comprendre l'évolution de l'émancipation ou non, du côté soumis ou non, et du côté tortionnaire des hommes. Et donc chaque mari me donnait l'opportunité, à travers les époques, d'illustrer un de ces aspects de la domination de l'homme sur la femme.
Ça
Le mort-vivant a poussé un cri aigu, noyé dans le sang de sa gorge, et s'est précipité sur elle. Berthe a tiré dans la panique. La puissance de la décharge a fait vriller son avant-bras. La balle est partie 30 cm trop à droite et a arraché la main de Norbert à la place de sa tête visée. Malgré l'épouvante, Berthe n'a pu s'empêcher de penser que c'était la main qui tenait le fusain. Norbert avait raison. Si Laurier il y avait, ce serait après sa mort. Le zombie s'est jeté au cou de Berthe et a tenté de la désarmer. Renoir courait autour d'eux en jappant. Norbert hurlait sur Berthe des jurons incompréhensibles et lui postillonnait des gerbes de sang dessus. Berthe avait l'habitude de l'hémoglobine. Sa vie maritale tenait du grand guignol. Elle a fermé les paupières pour protéger ses yeux, pestant contre Renoir, qui l'empêchait de réfléchir. Puis elle a repensé à Nana. « Par les couilles ! Dieu que sa grand-mère était sage !» Berthe a donné un grand coup de genou dans les bourses du zombie qui a poussé un hurlement à la lune. Ses mains ont lâché Berthe pour couvrir ses parties génitales enflammées. Voilà un extrait de Mamie Louger de Benoît Philippon, deuxième invité donc de Mauvais Genre ce soir sur France Culture, une publication Les Arènes dans la collection Equinox. Alors comme le disait Élise, effectivement l'histoire d'un corps, le corps d'une femme. Alors on passe par tous les stades de son évolution physiologique, érotique, et effectivement les morts sont tous liés à sa vie affective, à sa vie érotique. Mais alors il y a un peu dire qu'il y a deux, presque, il y a deux types, on peut dire, de morts. Il y a ceux qui sont, on peut dire, il y a les morts pour raisons idéologiques quasiment. Oui. Et les autres pour des raisons strictement sexuelles et érotiques.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est une fois de plus, c'était pour moi, c'était de dire que chaque victime de Berthe, parce que finalement elle allait les abattre, avait chacun dans son registre une raison de mourir. Effectivement, soit parce qu'il était un oppresseur physique, soit effectivement psychologique. Je parle aussi, je vais parler de la femme en tant que procréatrice, parce que bon, c'est un spoil, mais Berthe s'avère finalement être ne pas être fertile. Du coup, ça crée une problématique. Ça veut dire quoi à l'époque du baby boom, etc. Et du coup, la femme juste en tant que reproductrice, torcheuse d'enfants, etc., etc. Donc à chaque fois, c'était de... parce que là, le passage que vous avez lu, c'est le passage très grand guignol. On parlait de Tarantino, oui, tout à l'heure.
Volontairement.
Je me suis amusé aussi pour chaque. Alors, je reproduis pas le même système, même dans l'écriture, de mise en scène. C'est-à-dire que je fais pas du grand guignol à chaque mari, mais justement, je m'amuse à.
Alors là,
à faire...
c'est Norbert le peintre.
Alors Norbert le peintre, il prend particulièrement cher, mais lui, par exemple.
Qui est-il, parce qu'il est un peu paresseux.
Il est paresseux, voilà, et puis il est très condescendant.
C'est un bohème, mais pas au sens où l'entend Sébastien Meyer.
On est en plein dans Berthe a découvert dans une brocante, elle a découvert le deuxième sexe que venait vendre une bouquiniste de Paris, et elle découvre par la littérature des termes qui sont effectivement le féministe, la liberté de la femme, l'émancipation, que elle vivait, alors sans avoir réfléchi à ça, de façon beaucoup plus spontanée et organique une fois de plus. Et effectivement Norbert, qui lui est un homme cultivé, puisqu'il représente le pain, donc à la fois l'artiste et l'homme, donc ça fait beaucoup d'égo sur un même bonhomme qui ne comprend rien à ses voix de la féminité. Il dit, vous avez déjà eu le droit de vote, que demander de plus, quoi, et qui va pas débarrasser son assiette. Enfin, c'est toutes ces petites bassesses et ces petites choses vulgaires qui vont rabaisser systématiquement la femme et qui font effectivement monter la marmite à ébullition.
Hubert, prolongeons.
Sur 100 ans de vie, il y a aussi 100 ans de langue. Et la langue évolue, et je voulais savoir comment vous avez travaillé là-dessus. Il y a une scène en particulier assez savoureuse où une prostituée traduit à Berthe les propos d'un jeune de cité qu'elle ne comprend pas. Comment vous avez fait ? Vous avez adapté la façon dont vous écriviez à chaque époque, ou essayez de noyer ça dans un flux qui soit un peu le même ?
Ouais, c'est une fois de plus de fait. C'est-à-dire que je me suis dit à un moment, quand j'ai pensé à la garde à vue, parce qu'à l'origine, j'étais sur Berthe de 1914 à nos jours, c'est là où j'ai un peu pleuré. Je me suis dit, voilà, Berthe en 1914, enfin, comment on parle à cette époque-là? Donc, je prends un peu des libertés, mais j'essaye d'avoir une sorte de passéisme dans l'oreille, dans le vocabulaire que j'utilise. Mais à partir du moment où je me dis garde à vue à notre époque, il va falloir assez vite qu'il y ait une confrontation entre elle est quelque chose de très contemporain. Donc quelque chose de très contemporain, ça va être effectivement une jeunesse sans... Je joue toujours avec les clichés, c'est-à-dire que je vais percuter le cliché pour après le contourner un peu. Donc je prends un jeune de banlieue qui va être très wesh, et à partir de là on va discuter effectivement pour lui qui va être dans une sorte d'arrogance de voilà, moi je suis là parce que j'ai dealé du mauvais toshi et toi la grand-mère t'es là pourquoi, ben moi j'en ai buté 7, donc tu vas apprendre un peu le respect et tu vas me parler bien. D'un coup ça crée un dialogue où déjà je retourne le rapport de force, c'est que c'est la grand-mère fragile qui en fait est bien plus impressionnante dans les crimes qu'elle a commis, et effectivement bah la confrontation des deux langues, mais alors la langue urbaine elle devient évidente. Enfin là après c'est juste j'utilise, c'est un peu comme des costumes. Moi je visualise mes personnages, je leur mets des costumes et après je les laisse s'exprimer entre eux en essayant de pas aller trop loin justement dans la caricature, mais Berthe étant déjà très caractérisée comme femme du terroir dans sa chaumière auvergnate, on met un wesh en face, ça va tout seul. Effectivement, du coup, je me suis dit, bah, la traductrice au milieu, ça va être une prostituée, et laissons la scène fleurir, c'est de la chimie après ça, on laisse les...
Sébastien Meyer, Benoît Philippon, lui a un siècle de profondeur de champ, on est 2018-1914, vous c'est quasiment deux siècles, ça charge ou ça magnétise fortement un récit et les personnages, de savoir qu'ils ont deux siècles derrière eux d'expérience, ils portent une histoire de deux siècles.
Ça donne de la profondeur, oui, ça donne de la liberté aussi. Enfin, en tout cas, moi, je me suis senti beaucoup plus libre avec ces personnages-là qu'avec des personnages vivant dans une réalité qui est la mienne. Je pouvais leur offrir une profondeur qu'on ne peut pas forcément offrir dans un pays qui existe. Il y a toute la question de la vraisemblance, de la crédibilité, et de pouvoir jouer sur cette limite-là, et puis d'accorder deux siècles de fiction dans le passé de mes personnages, c'est clair, c'est une jouissance immense.
Moi, ce que je trouve intéressant aussi, Benoît Philippon, c'est que comme Sébastien Meyer, j'ai un peu l'impression que vous êtes tombé dans le genre du polar un peu par hasard ou par accident presque. Hein. C'est-à-dire que vous l'utilisez pour parler de choses qui vous préoccupent et pour écrire un roman qui est engagé. Et je trouve ça très réussi. C'est-à-dire que Berthe, évidemment, elle dézingue à tout va chacun de ses maris et chaque personne qui va s'en prendre à sa vie ou à ce qu'elle aime. Mais finalement, on ne peut que penser à ces femmes qui, comme Berthe, ont subi ce genre de choses, mais qui, elles, n'ont pas été dans un roman, dans un polar, et ont subi ça sans pouvoir s'en défendre. Et je trouve que vous évitez en plus l'écueil de « quand on veut que les choses changent, on n'a qu'à se défendre ». Finalement, on se rend compte que dans un roman, c'est possible avec un vieux lougueur, mais dans la réalité, c'est pas si simple. Et vous responsabilisez beaucoup les hommes dans ce récit.
Oui,
Philippon.
Oui, et alors effectivement, moi, je rentre pas dans les cases et le côté roman. Enfin, déjà, de fait, dans les différents métiers que j'ai fait, que ce soit réalisateur, scénariste, je fais aussi des films d'animation. Donc, moi, quand j'attaque le roman, quand j'ai attaqué Cabossé, l'idée c'était pas de dire je veux faire du polar et je veux raconter des histoires de flingues et de mafieux. C'était plus de dire j'ai envie d'utiliser une forme qui soit une forme relativement ludique. Effectivement, mon genre est en plus du Tarantino, où en gros, je vais embarquer les gens dans une couleur qui, je pense, peut être divertissante, mais en fait, je suis en cheval de Troie, c'est-à-dire que derrière, je vais raconter des choses qui me touchent particulièrement à cœur. Et Cabossé, c'était un peu le roman de la colère, où j'avais envie d'exprimer pas mal de choses sur les différentes violences qui me mettent en colère. Hein. Ça va parler de pédophilie, déjà de violences faites aux femmes, d'homophobie, etc. Du coup, au milieu de tout ça, surgit Mamie Luger, qui elle-même exprime la violence qui lui a été faite par ses différents maris. Donc quand j'attaque Mamie Luger, c'est exactement le même principe. J'utilise une couleur, la couleur du polar et une fois de plus du divertissement, pour essayer d'avoir un message fort pour balader mon spectateur dans différentes émotions à chaque mari, mais aussi à d'autres invités. On va peut-être pas spoiler ici, mais il y a pas que des gens qui sont dézingués, il y a aussi des belles histoires dans la vie de Berthe, mais tout ça pour dire effectivement pour essayer d'exprimer ce que moi je vois, mais c'est ce dont tu parlais aussi tout à l'heure, Sébastien, les choses qui nous mettent en colère dans la société actuelle en tant que homme blanc hétéro. Il y a plein de choses qui me scandalisent sur leur racisme, sur la situation de la femme, sur l'homophobie, etc. Et s'il y a il faut aussi que moi je m'exprime sur ce sujet-là, parce que ce serait trop facile de n'aborder que des sujets qui ne fâchent personne. Et moi j'avais envie et besoin d'exprimer à travers cette grand-mère un point de vue sur sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que incroyablement, ce qu'elle a vécu dans les années 40, 50 et 60 résonne complètement encore à ce qui est dit depuis un mois ou depuis un an, ce qui est dit, verbalisé avec notamment l'affaire MeToo. Finalement, Berthe, elle l'a vécu depuis des années et le roman se conclut. Alors c'est un faux spoil, mais elle dit voilà, moi je vous raconte mon histoire, c'est peut-être pour donner un peu une leçon aux jeunes filles d'aujourd'hui et qu'elles fassent pas les mêmes conneries que moi, et surtout les mecs quoi, qui résonnent un peu et qui réfléchissent différemment à leurs actes et qui se responsabilisent. L'idée c'est pas forcément d'accuser, mais c'est de prendre un peu de la distance et prise de conscience de nos actes en tant qu'hommes.
Et je trouve qu'on voit là, dans ces deux livres, l'évolution du polar actuel. C'est-à-dire vraiment qu'on sort des sentiers battus qui ont arpenté le polar pendant des décennies pour arriver vers un polar. Là, je m'adresse à mon confrère Hubert Prolongeau. Il y a vraiment une évolution du polar qui se tourne vers des questions idéologiques.
Oui, et qui rentre à travers l'utilisation, la récupération, la transformation de clichés existants. L'une des choses que j'aime bien chez Benoît Philippon-Sy, c'est qu'il a évité le piège de la truculence, le piège de refaire du San Antonio, cette idée-là, et qu'il y a des personnages qui existent au-delà de ça, donc qui sont à la fois référence au genre et en même temps essaient de le dépasser un peu.
Benoît Philippon, Mamie Luger, c'est aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox. Sébastien Meyer, Les Casseurs d'Os, c'est chez Fleuve Noir. Il est l'heure maintenant, bien sûr, d'écouter Christophe Beer.
Un homme divague sur Zarpa Mesa, montagne du plateau désertique de Mesa of Lost Woman, série B cotonneuse engluée dans la ritournelle d'un piano lymphatique et les notes énervées d'une guitare de flamenco, musicomètre envahissante d'Oit Curtin, le compositeur de Scooby-Doo. Il a l'œil poché sous un gros verre de lunettes dépolies, une coquette verrue noire sur la joue et des rêves d'une race supérieure. Le docteur Aranya injecte l'hormone de croissance du pituitaire antérieur de l'homme dans des mygales velues qui enflent. L'hormone trafiquée des théraphocydes est à son tour inoculée dans des corps de pin-up mutiques, aux pupilles fixes et aux ongles métalliques griffus, doués pour les danses lascives. Il espère créer la super-araignée femelle qui contrôlera l'humanité. Hélas pour lui, l'éminent Masterson, organothérapiste qu'il a convoqué dans son laboratoire encombré d'éprouvettes et de lumières clignotantes, refuse de l'aider. À l'origine, un film inachevé de 1951, Tarantula, avec un crash d'avion, un équipage menacé par un tueur et des monstres dans des rochers. Un bout de film du mystérieux Herbert Tevos. On sait désormais qu'il s'agit du non moins obscur Herbert von Schellenbach, vétéran combattant allemand auprès du Baron Rouge, caméraman survivant d'une expédition amazonienne et qui se vantait aussi d'avoir dirigé Marlène Dietrich dans L'Ange Bleu, von Sternberg n'étant qu'un exécutant. En 1951, ce quinquagénaire colérique, amateur de cognac courvoisier, subjugué par la beauté d'une fraîche starlette en drag queen, espérait donc en une nouvelle Marlène. Ange migale d'un bouge miteux de la frontière mexicaine, sur la jambe nue de laquelle sa caméra amoureuse remonte avant que la danseuse n'hypnotise Masterson par la maladresse de ses déhanchements. Ramassant les miettes de ce fiasco, le producteur Ron Ormond, ex-magicien reconverti avec sa femme dans le cinéma d'exploitation racoleur, ajoute le savant mégablomane, un nain à chondroplase et un bossu hirsute, résultat des expériences balbutiantes, dit celui, deux égéries d'Edwood et une voix off sentencieuse. Étrange, la monstrueuse assurance de cette race de bipèdes à l'ego démesuré, la créature qui s'appelle elle-même homme. Il croit que la nature lui appartient et que tout ce qui y vit n'est là que pour le servir. Regardez comme il est idiot. Même l'infime insecte que l'homme écrase vaut largement l'humanité et le dépasse en nombre de plusieurs milliards. Ce stupéfiant rafistolage tient du collage surréaliste et confirme le constat sans espoir de la voix off. Backfilm a la bonté de l'avoir sous-titré et édité sous le titre de « Les créatures du docteur Aranya ».
Ah, que serait-on sans Backfield ? Merci Christophe Beer. Je rappelle les ouvrages de nos invités de ce soir. Sébastien Meyer, Les Casseurs d'Os, c'est chez Fleuve Noir. Et Benoît Philippon, Mamie Luger, c'est aux Arènes, dans la collection Equinox. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Marie Lepeintre, Serme, Boutata Claire, Martin Dugard, Céline Duchesnay, Élise Lépine, Hubert Prolongeau, Christophe Beer et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve bien sûr samedi prochain. Il y sera question de Dario Argento, de Lucio Fulci et de Carlo Lizzani. D'ici là, bonne nuit à tous.